Et maintenant, place au Magactu avec Lilou et son équipe pour vous parler des nouvelles actualités.
Sur Bonjour. Radio Zone 61, en direct du lycée Jean Guénaud à Flers.
Info, concerts, sorties, sport.
Magactu.
Bonjour, vous êtes sur Radio Zone 61 avec Lilou. Aujourd'hui, nous allons donc faire le Magactu. Pour commencer avec l'actu, au niveau mondial, nous parlerons des élections européennes et du conflit israélo-palestinien en compagnie de nos deux Julie. Ensuite, avec Valentin et Bélinaï, le scandale marseillais et la cérémonie du débarquement pour les infos nationales. Avant la pause musicale, nous présenterons les infos locales avec Jenna, Maeva et Maïli pour faire un retour sur le prix de la liberté et des activités autour de Flers. Mais tout de suite, écoutons Julie et Julie pour l'actualité internationale.
Magactu.
Dimanche, nous vous invitons à aller voter aux urnes pour les élections européennes. Ces dernières sont très importantes et elles permettent aux citoyens européens d'élire leurs représentants au Parlement européen. Les députés européens formulent des textes de législation et prennent des décisions qui influencent tous les aspects de la vie dans l'ensemble de l'Union.
Ces élections ont lieu tous les 5 ans et cela tombe donc dans 2 jours. C'est donc un élément clé du fonctionnement démocratique de l'UE.
Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen. Tout citoyen français et européen peut être candidat aux élections européennes tant qu'il respecte les conditions de candidature. Avoir la nationalité française ou la nationalité d'un État membre de l'Union européenne et être âgé de 18 ans au moins la veille du jour du scrutin.
Le nombre de députés européens élu d'un parti politique est proportionnel au nombre de voix qu'il obtient. Les citoyens de l'UE résidant dans un autre pays de l'UE peuvent y voter et se présenter aux élections. Au niveau des élections européennes, pour faire élire des candidats, une liste doit dépasser un certain seuil qui est de 5% des suffrages exprimés. Plus une liste a de voix, plus elle a d'élus.
Les Français sont invités à aller aux urnes après-demain. C'est une élection à un seul tour. Voter aux élections européennes, c'est renforcer la démocratie en Europe et choisir un cap pour notre quotidien à tous au niveau local, national et européen.
Nous en profitons aujourd'hui car c'est le dernier jour où nous pouvons en parler librement à partir de demain. Ce thème sera interdit pour raison de neutralité pour ne pas influencer les futurs votes.
Maintenant, nous allons passer au sujet suivant qui concerne la guerre entre la Palestine et l'Israël qui a repris avec intensité depuis l'attentat du 7 octobre perpétré par le Hamas. Pour remettre un peu de contexte historique, il faut savoir que le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé. Les nations arabes lui déclarent aussitôt la guerre. L'armée israélienne prend le dessus, ce qui oblige environ 900 000 Palestiniens à fuir vers Gaza, la Cisjordanie et les pays voisins. Les Palestiniens appellent cet épisode la Nakba, ce qui signifie la catastrophe.
Depuis, les tensions sont palpables dans la région et elles sont fortement augmentées ces derniers mois. L'armée israélienne a pris le contrôle de la bande de Gaza dans le but d'éliminer le groupe du Hamas. Cependant, cette intervention militaire associée à des bombardements a entraîné de nombreuses victimes collatérales. Des journalistes et témoins rapportent qu'un grand nombre de femmes, d'enfants et de personnes âgées figurent parmi les victimes. C'est notamment le travail réalisé par le photoreporter qui a remporté le prix Liberté à Caen cette semaine.
En mars 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution appelant à cesser le feu humanitaire immédiat pendant le mois du Ramadan et la libération de tous les otages. Alors que les combats s'intensifient à Rafah, des milliers d'enfants déjà épuisés, malnourris et traumatisés continuent de vivre l'indescriptible.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous ont plu. Merci de votre attention et à très vite.
Magactu.
Valentin et Bélinaï, pouvez-vous nous expliquer le scandale marseillais et la cérémonie du débarquement ?
Bonjour, du coup, nous allons vous parler des enregistrements qui ont eu lieu à Marseille, captés dans le centre de vidéosurveillance, mettant en cause des policiers municipaux. La Provence et RTL révèlent des conversations captées dans le centre de supervision urbain, notamment lors d'une interview violente de la police municipale contre un individu alcoolisé. La mairie annonce qu'elle va porter plainte. La vidéo date de l'année dernière et a été révélée début mai par BFM Marseille. on y voit un homme manifestement ivre, frappé par des policiers municipaux. Puis, plus rien. La caméra du centre de supervision urbain, CSU, chargée de la vidéoprotection de la ville, cadre brusquement un autre angle de vue. Ce mardi 4 juin, RTL dévoile les enregistrements tenus par le centre de vidéosurveillance à ce moment précis et le témoignage de Sébastien Fioranti, un ancien opérateur du centre en conflit avec sa hiérarchie. Comme l'explique La Provence, ces bandes sonores semblent confirmer que des policiers ont voulu couvrir les violences commises par leurs collègues lors d'une intervention en déplaçant volontairement une caméra. Tu le prends, tu le m'étonnes, tu l'amènes au sol et tu lui mets son petit coup en traître. Peut-on entendre dire un des agents sur ces captations sonores ? Le taquet à la limite, tu le mets dans la voiture quand il n'y a personne qui te voit, répondit un autre. Les surnoms amicaux comme frérot fusent dans le centre, alors que l'un des opérateurs demande clairement à ce que les policiers sur le terrain ne se mettent pas en dessous de la caméra. Selon ces enregistrements, certains anciens collègues de Sébastien Fioranti utilisent également le matériel de vidéosurveillance pour reluquer la jante féminine et commenter les physiques de manière lubrique. C'est pas mal ça, elle a des bonnes cuisses, montre-nous la pacholette un peu. Entend-on sur les enregistrements diffusés sur RTL, selon les informations de la station, deux enquêtes administratives et deux enquêtes judiciaires ont été découvertes après ces agissements.
Maintenant, je vais vous parler des cérémonies qui ont eu lieu hier pour le débarquement. Donc hier, tout le monde le sait, nous étions le 6 juin 2024, 80 ans après le débarquement des forces alliées en Normandie. À cette occasion, plusieurs cérémonies ont été organisées sur le littoral, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des vétérans. Quatre cérémonies ont été organisées hier dans le Calvados. La plus importante a eu lieu à partir de 15h30 à Omaha Beach, réunissant Joe Biden, Emmanuel Macron, le prince Charles et 22 autres chefs d'État et de gouvernement. Environ 200 vétérans étaient venus en Normandie pour participer aux différentes cérémonies. Ce sont pour la plupart originaires des États-Unis, du Canada et de Grande-Bretagne. Les cérémonies se sont tenues sous un important dispositif de sécurité avec 43 000 forces de l'ordre mobilisées, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le 6 juin 2024 a été une journée mémorable, marquant le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Les commémorations se sont concentrées sur plusieurs sites emblématiques de Normandie, avec une cérémonie principale à Omaha Beach présidée par Emmanuel Macron. En plus de cette cérémonie, diverses activités ont eu lieu dans les environs, y compris des concerts, des expositions et des défilés mettant en avant l'histoire et la mémoire de cette journée de la Seconde Guerre mondiale. D'énormes mesures de sécurité ont été mises en place avec la mobilisation de milliers de policiers, gendarmes et équipes de sécurité pour assurer le bon déroulement des événements et la sécurité des participants et des spectateurs. Cette journée de commémoration a également été marquée par des discours poignants rappelant l'importance de la paix et de la liberté et de la démocratie, valeurs pour lesquelles tant de personnes se sont battues il y a 80 ans. Les cérémonies ont attiré une foule nombreuse témoignant de l'importance durable de ce moment historique. Suite à cette cérémonie, M. Macron a tenu un discours sur plusieurs sujets, dont ces cérémonies, les européennes et les aides à l'Ukraine. Merci de nous avoir écoutés. Je repasse la parole à Lilou.
Magactu. Et vous les filles, vous étiez dans les gradins mardi pour le prix Liberté. Pouvez-vous nous faire un retour dessus et ce qu'il se passe à Flers ?
Bonjour à tous. Concernant les infos locales, j'ai une info qui pourrait faire plaisir aux restaurateurs. Monsieur Philippe Etchebest a annoncé il y a 2 jours qu'il cherche des candidats pour la 13e saison de son émission intitulée Cauchemar en cuisine. Cette émission consiste à aider les restaurants en difficulté ou encore ceux qui sont mal notés. Etchebest donne des conseils pour faire évoluer chaque restaurant dans lequel il va. Si vous souhaitez regarder cette émission, ça passe sur M6. Pour les restaurateurs de Flers ou de ses alentours, si vous voulez vous inscrire au casting qui est pris en charge par Flers et sa région, il faudra contacter l'adresse email de l'émission qui est castingcauchemar info@m6.fr ou encore leur numéro de téléphone qui est 06 70 17 35 14. Pour le moment, aucune date de tournage n'est connue car cela sera fixé en fonction des disponibilités du restaurateur choisi. Je laisse maintenant la parole à Maëva.
En 2025, la chanteuse française Jennifer prévoit de donner un concert à Tingebré qui se déroulera dans la salle Colisée. Elle vient de Nice, elle s'est faite connaître grâce à l'émission Star Academy en 2001. Depuis, elle a enchaîné les succès avec plusieurs albums et beaucoup de tournées à travers la France. Son passage à Tingebré est très attendu par les habitants de la région, qui se préparent à assister à son concert. On s'attend à une ambiance chaleureuse et bien évidemment qu'elle chante ses plus grands tubes, comme par exemple... Ce concert de Jennifer promet d'être un moment inoubliable pour les habitants de Tingebré. Même en 2025, elle continue de prouver qu'elle est une artiste incontournable de la scène musicale française. Tingebré est une ville très dynamique au niveau culturel qui invite des chanteurs comme par exemple le concert de Pierre Garnier, Menticia et encore plein d'autres. Dans les prochains mois à venir, il y aura aussi Thomas Angelvi qui jouera le 4 octobre 2024 et Sheila qui elle jouera le 7 décembre 2024. Je vous laisse avec Jenna.
Le 4 juin 2024 dernier a eu lieu la 6e édition du Prix Liberté. Cette cérémonie a pour but de désigner chaque année une personne ou organisation engagée dans un combat en faveur de la liberté. C'est en compagnie de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix que la région Normandie a lancé ce système de récompense en 2018. C'est en région Calvados, à Caen, que s'est déroulé au Zénith le Prix Liberté. Le 16 février 2024, les nominés ont été nommés. Noura Ghazi, avocate syrienne pour la défense des droits des prisonniers. Maria Kolesnikova, musicienne pour la défense des militantes et pour la démocratie. Et le journaliste Motaz Azaïza, qui défend la liberté d'expression et de droit à l'information, qui d'ailleurs est devenu très célèbre suite aux dernières actualités. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, une quarantaine de vétérans ont participé à l'événement. La cérémonie a à peine commencé que l'émotion était bel et bien présente dans tout le zénith, quand les vétérans ont fait leur entrée et que certains se sont même exprimés. Plusieurs établissements ont été conviés ce mardi après-midi pour vivre cet événement en direct, tout comme les élèves de seconde 6 de ce lycée y ont participé. 4500 jeunes de 15 à 25 ans ont été invités à présenter dans un formulaire une personne ou une organisation dont ils souhaitent faire connaître le combat. La rappeuse afghane Sonita Alizada, ancienne gagnante du prix de liberté en 2021, a créé une chanson avec le slammer Kalima, dont le clip a été tourné sur les plages du débarquement et a été interprété ce mardi lors de la dernière cérémonie. C'est issu de 116 pays que 14 265 jeunes ont participé au vote. La récompense a donc été décernée au journaliste Motaz Azaïza et suite au conflit Israël-Palestine, cette récompense a fait polémique car des députés de la majorité ne sont pas en accord avec ce choix et veulent que le prix lui soit retiré. Mais la région Normandie ne cède pas et prend la décision de laisser le prix au journaliste Motaz Azaïza. Merci de votre écoute.
Magactive. À présent, passons donc au MAG avec, dans un premier temps, les sorties culturelles en compagnie de Mélina et Maëlle pour continuer une partie sur le sport réalisée par Gaspard, Amadou et Timéo qui vont nous parler de la Coupe de l'Orne en compagnie de Lucas, du changement de club de Mbappé et de Roland Garros. Et donc, pour débuter ce MAG, nous allons voir du côté de Maëlle et Mélina pour savoir ce que je vais pouvoir aller voir au cinéma dans les prochains jours.
Je vais vous présenter quelques films qui vont sortir le 12 juin. Donc nous avons Paradis Paris, réalisé par Marjan Satrap, avec comme acteurs Monica Bellucci et Ben Aldridge. Ce film raconte la vie de plusieurs personnages à Paris, qui cherchent chacun leur propre paradis, qu'il s'agisse d'amour, de réussite professionnelle ou de sens de la vie. Pour les enfants, nous avons Vice Versa 2, réalisé par Kesley Mann, avec comme voix Amy Poehler, Bill Hader et Lewis Black. La suite du film Pixar où les émotions de Riley affrontent de nouveaux défis pendant son adolescence, introduisant de nouveaux personnages et aventures. Je vais vous passer un extrait du film.
Notre petite Riley grandit tellement vite. Et tout va pour le mieux. Qu'est-ce qui se passe ?
Ok, débarrassez-moi tout ça. Allez, on va tout casser.
Comme film d'horreur, nous avons Sans abri jour 1, réalisé par Michel Sarnowski. Les acteurs principaux sont Lupita Nyong'o et Joseph Quinn. Ce préquel explore le premier jour de l'invasion des créatures aveugles mais ultra sensibles au bruit, dévoilant les origines de l'apocalypse silencieuse. Je laisse la parole à Maëlle avec le film Un petit truc en plus.
Un petit truc en plus est un film sorti le 1er mai 2024 au cinéma, réalisé par Artus, un humoriste et acteur français. C'est le plus gros succès français depuis la crise du Covid, avec plus de 5,8 millions d'entrées, un film adoré par les Français. Je vais maintenant faire un petit résumé du film. Un père et son fils doivent échapper à la police après un braquage. Ils vont se réfugier dans une colonie de vacances pour adultes en situation de handicap en se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur. Une expérience humaine qui va changer leur vie. Et dans ce film, on retrouve Clovis Cornillac, Alice Belaïdi, Artus et surtout les 10 comédiens en situation de handicap qui font beaucoup penser à des acteurs professionnels. Je vais maintenant vous passer un extrait.
Putain ! Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Oh.
Tu n'es pas handicapé ?
Si, je ne suis pas handicapé. Moi, j'ai toujours été handicapé depuis tout petit.
Bah, par contre, pas.
Et tu dis rien à personne, hein ?
Ah, pas Ludovic.
C'est qui, Ludovic ?
C'est moi, petite bite !
Pardon ?
Merci de nous avoir écoutés. Je passe la parole à Lilou.
Magactu.
Et pour finir avec le mag, les trois garçons vont nous parler de leurs trois sujets, la Coupe de l'Orne, en compagnie de notre invité Lucas, auquel on va poser plusieurs questions, du changement de club de Mbappé et du Roland-Garros.
Eh oui, 15e Ligue des Champions pour le Real Madrid, ils ont gagné 2-0 face à Dortmund avec une magnifique tête de Carvajal et un but de Vinicius Junior. Après cette victoire, le Real a révélé le nom du premier arrivant de la Maison Blanche. Il s'agit donc de Kylian Mbappé, arrivé librement du Paris Saint-Germain. Il a signé jusqu'en 2029.
Ce mercredi 5 juin 2024, l'équipe de France de foot a joué son premier match de préparation avant l'Euro, dans deux semaines, face au Luxembourg. Une victoire qui s'est soldée sur un score de 3-0 avec un but de Randal Kolo Muani, puis un merveilleux but de Jonathan Klose et enfin un but de Kylian Mbappé sur une passe décisive de Bradley Barcola, son premier match sous le maillot des Bleus.
À présent, parlons un peu de tennis avec Roland Garros. Ce vendredi 7 juin, nous allons assister aux demi-finales de la 123e édition qui opposera Yannick Sinner face à Carlos Alcaraz, puis Casper Ruud face à Alexander Zverev. La finale sera ce dimanche 9 juin sur le court Philippe Chartrier. Le favori est l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui est troisième mondial. Les demi-finales dames se sont quant à elles déroulées hier. Cela a opposé Swiatek, première mondiale, à Coco Gauff, la troisième mondiale. Puis, douzième mondiale, Paolini, face à Mira Andreeva, non classée. La finale sera demain sur le court central. Cette finale opposera la Polonaise face à l'Italienne.
Maintenant, place au sport local avec la Coupe de l'Orne U18 qui va se dérouler demain pour les demi-finales sur les terrains de l'UF Flérienne B face à l'AM La Ferrière et Saint-Georges recevra l'US Méloise. Avec nous, nous avons un joueur de Saint-Georges.
Salut Lucas, peux-tu te présenter ?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, je m'appelle Lucas Prieux. J'ai 15 ans, bientôt 16, et je joue, comme tu l'as dit, à Saint-Georges-des-Groseilliers. Donc du coup, je joue dans l'équipe U18 en position d'attaquant.
Ok. Peux-tu nous parler de ton parcours ?
Bah écoute, j'ai deux parcours en Coupe de l'Orne, dont un qui est vraiment spécial, celui de l'année dernière, parce que du coup, je suis un ancien vainqueur de la Coupe de l'Orne. Donc je vais un peu parler de lui et ensuite parler de celui de cette année. Donc celle de l'année dernière, elle est très spéciale parce qu'on n'a pas joué un seul match à domicile, ce qui est quand même assez spécial quand tu joues une coupe.
Ouais.
Et on a joué des équipes qui n'étaient pas d'un petit niveau. On a joué Alençon, on a joué La Ferté, en finale Berduy. On arrive à gagner en gagnant la séance de tir au but assez nettement. On avait plutôt dominé le match. Et c'est un vrai, vrai bon souvenir. Et du coup, pour la Coupe de l'Inde de cette année, on est tombé tout d'abord sur Condé-sur-Sarthe, où on a dû faire le déplacement. On fait un match qu'on doit finir plus tôt, mais qu'on gagne au tir au but. Donc première joie. Ensuite, on tire Sam Football, qui a déclaré forfait malheureusement, donc on passe encore. Et là, sur les trois dernières équipes qu'on pouvait tirer, donc Flair, B, La Ferrière et Le Mel, on tire certainement l'équipe la plus favorable pour nous à domicile. Donc c'est vraiment exceptionnel pour moi.
Comment sens-tu cette demi-finale ?
Bah, cette demi-finale, alors personnellement, enfin, je suis quelqu'un d'assez stressé, donc je stresse avant cette finale, et je pense comme le reste de l'équipe. Mais on est tous excités dans le sens où il y a une finale à jouer pour la génération 2008 qui a gagné la Coupe de l'Orne avec moi. On pourrait faire deux finales en deux ans, ce qui est exceptionnel. Le Mel, on les a déjà joués cette saison récemment. On a gagné le match sur un score de 4-1, sur un match qui était maîtrisé de notre part. Donc le match de demain, c'est un match qu'on va devoir maîtriser et aboutir.
Okay. Cette mini-interview touche à sa fin. Merci à Lucas d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir écoutés.
Magactu.
Pour terminer, je vais vous parler de mon événement coup de cœur de ce week-end. Pour les fans de foot, on peut retrouver la Coupe de Normandie U18 pour les demi-finales au stade du Hazé à Flair. Ce match opposera le FC Flair face au SM Caen. Pour voir ces deux équipes s'affronter, le match débutera à 15h et c'est un match gratuit. Venez nombreux et espérons qu'ils gagnent. Merci de nous avoir écoutés, le Magactu est fini, laissons place à nos collègues.
Sur Radio Zone 61, en direct du lycée Jean Guénaud à Flair.
Info, concerts, sorties, sport.
Magactu.